Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Comme je l'ai fait pour Stax et d'autres maisons de disques, je vais parler d'un label qui a marqué la musique américaine depuis les années 50 jusqu'à nos jours, même si c'est beaucoup grâce à ses tubes et artistes des années 60. Motown ou Motown Records est une compagnie de disques américaine qui fait partie aujourd'hui d'Universal Music Group, mais la Motown a été créée en janvier 1959 par Berry Gordy, né en novembre 1929 à Détroit, dans le Michigan. Le nom Motown est en fait la contraction de Motor Town, la ville des moteurs, le surnom de Détroit, qui était alors la capitale de la production automobile américaine. En 1959, le premier tube sorti sous le label Tamla est Money That What I Want de Barry Strong, et pour Berry Gordy, je dirais comme par hasard. En lançant sa maison de disques, Berry Gordy avait pour objectif de séduire à la fois le public noir et le grand public blanc, avec des chansons de soul et de rhythm and blues s'opposant à un véritable rival de labels concurrents tels que Stax. Il organisa sa société en une véritable usine à tubes, dans laquelle rien n'était laissé au hasard. Son souci du perfectionnisme, d'ailleurs, le fit baptiser ses studios Hitsville, USA, la ville des succès aux États-Unis. En s'entourant des meilleurs auteurs-compositeurs du moment, de fabuleux artistes aussi, en appliquant des contrats draconiens avec eux, Berry Gordy a créé une véritable nébuleuse de labels avec d'abord Gordy, puis Tamla, avant de la rebaptiser Motown en 1960. Mais il eut aussi Miracles, Rare Earth, puisqu'il alla même à partir des années 70 se tourner vers le rock blanc, mais aussi le jazz, le country, le hip-hop et tant d'autres. Parmi les fans du Motor Sound, je citerai les Beatles et les Rolling Stones qui s'en sont beaucoup inspirés. Please Mr. Postman, vous vous souvenez ? Pour illustrer mon émission, je vais commencer par un groupe vocal féminin peu connu en France. Martha and the Vandellas, connu aussi sous le nom de Martha Reeves and the Vandellas de 1967 à 1972, fut formée à Détroit en 1957. Le groupe est devenu célèbre dans les années 60 sous le label Motown. Comme souvent à l'époque, trois copines de Détroit décident de fonder leur groupe, Annette Bird, Rosalind Ashford et Gloria Williams, auxquelles va s'ajouter Martha Reeves, venue d'Alabama. Ensemble, elles vont gravir les échelons de la notoriété. Martha devient la chanteuse principale après le départ de Gloria Williams en 1962. Le groupe a signé et a finalement enregistré tous leurs singles sous le label Gordy de Motown. Au cours de leur parcours de 9 ans dans les charts, de 1963 à 1972 essentiellement, Martha and the Vandellas a enregistré plus de 26 hits et enregistré dans des styles aussi différents que le doo-wop, le rhythm and blues, la pop, le blues, le rock'n'roll et la soul. Après leur signature chez Gordy en 1962, les Vandellas ont décroché l'or avec leur deuxième sortie, la première composition et production d'ailleurs du célèbre trio Holland Dozier Holland, intitulé Come and Get These Memories. Mais j'ai choisi de vous passer Dancing in the Street, danser dans la rue. Ce titre monta au deuxième rang du Billboard Hot 100 et connut un succès mondial. Mais je l'ai surtout choisi car Keith Richards des Rolling Stones l'a remarqué. Ainsi, au début, I Can't Get No Satisfaction sonnait comme une chanson folk et Keith Richards ne voulut pas en faire un single. En fait, il trouvait que le riff ressemblait trop à celui de Dancing in the Street de Martha and the Vandellas. Mais l'électrification de la version, notamment l'ajout de l'effet fuzz, régla le problème et changea la vie des Rolling Stones. Étonnant, non ? C'était Dancing in the Street par Martha Reeves and the Vandellas sur OxyWeb Radio. Stevie Wonder naît Stevelyn Hardaway Judkins en mai 1950 à Saginaw, dans le Michigan, est considéré comme l'un des plus grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle. Il possède l'une des carrières les plus prolifiques de la musique populaire américaine. Né prématuré, il a été victime d'un excès d'oxygène en couveuse, ce qui lui fit perdre la vue. Or, parce qu'il a survécu, Stevie Wonder se croira toujours porté par la chance. Sa discographie, depuis ses 11 ans, ne compte pas moins de 26 albums studio, 3 albums de musique de film, 4 albums live et 98 singles. Aux États-Unis, 49 de ses chansons ont figuré à la première place du Billboard Hot 100. Au total, dans le monde, 32 de ses singles ont été numéro 1 des ventes de disques. En effet, Stevie Wonder a vendu plus de 100 millions d'albums, a reçu 26 Grammy Awards et un Oscar de la meilleure chanson originale pour I Just Called to Say I Love You. Et il a joué du funk, du rhythm and blues, de la soul ou encore de la pop tout simplement. Il fut découvert par Ronnie White, un compositeur qui était membre des Miracles avec Smokey Robinson. Stevie signe pour le label Tamla dès l'âge de 11 ans. Et son premier album sort en 1962. Il fut surnommé Little Stevie Wonder, Stevie la petite merveille, qui devint Stevie Wonder, son nom d'artiste, tout simplement. L'expiration de son contrat en 1966 arrive au moment où ses ventes baissent et que sa voix mue avec la puberté. Or, la compositrice et productrice Sylvia Moy lui fait avoir une nouvelle chance au sein de la Motown. Et elle aura raison, Stevie y gagnera son indépendance financière aux grandes dames de Berry Gordy. et choisi Uptight, Everything's Alright, qui est un titre de 1965 chez Timeline Records. Ce fut le premier succès où Stevie Wonder est co-auteur. Avec ce titre, il perça en Europe, et c'est aussi le titre qui le transforme en artiste majeur de la Motown sans l'appui de son harmonica. Et faites attention aussi à la rythmique, véritable référence de la Motown. Du Motown Sound. C'était Uptide, Everything is Alright, par Stevie Wonder, sur OxyWeb Radio. Autre exemple de la puissance de la Motown avec The Temptations, un groupe vocal masculin de soul et de rhythm and blues fondé en 1961 à Détroit. Les Temptations comprennent à l'origine des chanteurs ayant appartenu à deux groupes différents, The Distance and The Primes. Le premier est formé à Détroit en 1959 par Otis Williams. Le second vient de Birmingham, dans l'Alabama. Ils vont fusionner suite au départ de plusieurs membres. Ainsi, Otis Williams regroupe Elbridge Bryant, Melvin Franklin, qui viennent des Distance, à Eddie Kendricks et Paul Williams, qui eux viennent des Primes. Après plusieurs noms éphémères, ils deviennent The Temptations, en signant chez Miracle Records, filiale de Motown. Le groupe agrémente son show avec des chorégraphies mises au point par l'un d'entre eux, Paul Williams. Leur premier succès, Dream Come True, le rêve devient réel, survient en avril 1962. En 1963, Elbridge Bryant quitte le groupe et est remplacé par David Ruffin. Leur premier numéro 1 aux États-Unis survient avec My Girl, la chanson de Smokey Robinson, qui met en valeur la voix justement de David Ruffin, nouvelle voix principale des Temptations. Elle est aussi parmi les meilleures ventes au Royaume-Uni. Les Temptations deviennent très populaires. Ils travaillent avec les Supremes de Diana Ross et en 1972, les Temptations enregistrent un nouveau classique, Papa Was a Rolling Stone, qui se classe numéro 1 des charts US et anglais. Voici My Girls, qui elle est sortie d'abord en 64 et écrite par Smokey Robinson et Ronald White, et elle devint le premier gros succès du groupe en 1965. Elle fut inspirée à Smokey Robinson par son épouse Claudette Rogers, chanteuse des Miracles. Il s'agit de la première chanson où David Ruffin s'impose comme première voix. Temptations sur OxyWeb Radio. Gladys Knight est une chanteuse américaine de soul et de rhythm and blues. Elle est également une actrice. Elle est née en mai 1944 à Atlanta, en Géorgie. Elle est surnommée l'impératrice de la soul. Cette fois récompensée aux Grammy Awards, Gladys Knight est connue pour les succès qu'elle a enregistrés dans les années 60, 70 et 80 avec son groupe Gladys Knight and the Pips, principalement au sein du label Motown. Gladys a enregistré deux singles qui furent numéro 1 aux États-Unis, Midnight Train to Georgia et That's What Friends Are For. 11 singles Rhythm and Blues furent numéro 1 et 6 albums Rhythm and Blues en atteignant la première place des charts. Elle est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame et au Vocal Group Hall of Fame avec The Pips. Deux de ses chansons, I Heard It Through the Grapevine et Midnight Train to Georgia, ont été intronisées au Grammy Hall of Fame pour leur valeur historique, artistique et significative. Gladys a également enregistré la bande-son du film License to Kill de James Bond en 1989, et le magazine Rolling Stone la classe parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps. Voici I Heard It Through the Grapevine, je l'entendis à travers la vigne, qui est une chanson écrite par Norman Whitfield et Barry Strong pour Motown Records en 1966. Ce sont Gladys Knight and the Pips, qui furent les premiers à l'enregistrer et à la sortir en single en septembre 1967. Elle fut numéro 1 sur le palmarès Billboard Rhythm and Blues des singles et numéro 2 sur celui des singles pop. Elle est rapidement devenue le single Motown le plus vendu à ce jour, mais je vais en reparler. C'était I Hate It for the Grapevine par Gladys Knight and the Pips sur OxyWeb Radio. The Four Tops est un quartet vocal également de chez Motown, dont le répertoire est principalement composé de styles doo-wop, jazz, music soul, rhythm and blues et disco. Le groupe, originaire de Détroit, est composé de Levi Stubbs, Abdul Duke Fekir, Renaldo Hobby Benson et Lawrence Beaton. La formation a perduré durant plus de 40 ans, de 1953 à 1997. Le premier changement de membre a lieu à la mort de Lawrence Beaton en juin 1997. Après ce décès, d'autres quittent le groupe qui ne portent dès lors plus le même intérêt pour leurs fans. Parmi les grands titres des Four Tops figurent I Can't Help Myself et Richard's I'll Be There. En 1972, les Four Tops vont quitter Motown et vont signer un contrat avec ABC Records. Ils continueront d'enregistrer des tubes au cours des années 80, mais cette fois avec différentes maisons de disques. The Four Tops a fait son entrée au Museum Rock and Roll Hall of Fame en 1990 et au Vocal Group Hall of Fame en 1999. En 2004, le magazine Rolling Stone va les positionner au 79e rang du palmarès des artistes toutes périodes confondues. Après une première position avec I Can't Help Myself en juin 1965, les Four Tops vivent d'autres succès. En août 1966 notamment, ils obtiennent une première position au classement anglais et américain avec l'un de leurs plus grands succès Motown, Richard I'll Be There, et bien d'autres vont suivre après ça. Richard's I'll Be There, Cherche, je serai là, fut écrite par Holland Ye Holland et les Four Tops l'ont sorti en 45 tours en août 1966 et sur leur album Richard en juillet 67. Elle remporte un très grand succès partout dans le monde et arrive en tête dans les charts, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et notamment en Grande-Bretagne. Cette chanson a été reprise par de nombreux artistes, dont Diana Ross en 1971, Gloria Gaynor en 1975 ou Michael Bolton en 1993. Et Claude François en a fait une version intitulée J'attendrai en 1966. C'était Richard I'll Be There par les Four Tops sur OxyWeb Radio. William Smokey Robinson Jr. est né en février 1940 à Détroit, toujours dans le Michigan. C'est un chanteur, compositeur de rhythm and blues et de soul, et il fut le leader du groupe The Miracles et compta beaucoup au sein du sous-label Tamla chez Motown. En 1972, il a annoncé sa retraite du groupe pour se concentrer sur son rôle de vice-président de Motown, poste qu'il occupait depuis 1961. Cependant, il revint à la chanson comme artiste solo au bout d'un an. Quand Motown Records fut vendu en 1988, Smokey Robinson quitta l'entreprise deux ans plus tard. Il fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1987 et en 2016, Smokey Robinson reçut le prix Gershwin de la Bibliothèque du Congrès américain. Smokey Robinson a formé le groupe vocal The Miracles en 1954 au lycée avec trois camarades. Repéré par Berry Gordy en 1958, il les fit enregistrer leur premier titre, Got a Job, chez N Records. Après divers bons enregistrements, en 1960, Chop Around se classe enfin numéro 1 des charts Rhythm and Blues et numéro 2 pour la pop, lançant définitivement leur carrière aux États-Unis. Le titre The Tears of a Clown, paru en 1967 sur l'album Make It Happen, sera publié en 45 tours 3 ans plus tard à la demande de plusieurs DJ et devint numéro 1 des charts. Smokey Robinson est également compositeur ou producteur pour d'autres groupes de Motown comme les Temptations, Marvelettes, The Four Tops ou encore Marvin Gaye. Les Beatles, les Rolling Stones, Otis Redding, Rehroff, Linda Ronstadt, Diana Ross, Kim Carnes ont repris plusieurs de ses chansons. Je vous propose d'écouter I Second That Emotion, Je maîtrise cette émotion, qui lui est venue à l'esprit lors d'un achat d'un bijou pour son épouse, et il fit un lapsus. Au lieu de dire qu'il comprenait combien le bijou allait plaire à son épouse, il dit qu'il maîtrisait l'émotion que cela susciterait chez elle. En anglais, c'est plus évident. C'était I Second That Emotion par Smokey Robinson and the Miracles sur OxyWeb Radio. Parmi les grands noms de la Motown, on trouve Marvin Gaye. Il fut même surnommé le prince de la soul. Marvin Gaye, né Marvin Pence Gaye Jr. en avril 1939 à Washington, est un chanteur et auteur-compositeur de renom. Il eut un grand succès dans les années 60 en tant que chanteur vedette de Motown. En 1971, Marvin Gaye sort un disque considéré comme majeur dans l'histoire de la musique soul et populaire en général. What's Going On, en particulier en 2003, Rolling Stone l'a classé à la 6e place parmi les 500 plus grands albums de tous les temps. Marvin Gaye continue à connaître le succès dans les années 70, s'exile en Europe, puis quitte Motown pour CBS et enregistre en 1982 le disque Midnight Love, resté fabuleux, avec la chanson Sexual Healing en particulier. Le 1er avril 1984, Marvin Gaye est tué par son père, un pasteur, après une dispute familiale, la veille de son 45e anniversaire. Marvin Gaye a été honoré à titre posthume, notamment en recevant un Grammy pour l'ensemble de son œuvre. En août 1968, après quelques difficultés, l'album In the Groove sort enfin. Au sein de cet album, la version de Marvin Gaye de I Heard It Through the Grapevine va attirer l'attention des disc-jockeys radio et Berry Gordy va finalement accepter sa sortie en single en octobre 1968. C'est la deuxième version à être enregistrée début 1967, mais c'est la troisième qui va sortir. Elle fit un triomphe dans le Billboard des singles pop fin 1968. Cette version est restée une référence pour ce titre. En effet, la voix sensuelle de Marvin et l'arrangement tout spécial de la Motown ont plu à travers les âges. En plus d'être sortie plusieurs fois par des artistes de la Motown, la chanson a été enregistrée par quantité de musiciens, dont Creedence Clearwater Revival, qui en a fait une version restée fameuse, qui dure 11 minutes, dans leur album Cosmos Factory. C'était I Heard It Through the Grapevine par Marvin Gaye sur OxyWeb Radio. Autre mythe de la Motown, The Jackson 5, encore appelé The G5 ou The Jacksons. C'est un groupe de soul originaire de Gary dans l'Indiana, près de Chicago, et composé au départ de 5 membres d'une même fratrie, les Jackson, avec Jackie, Toriano, dit Tito, Jermaine, Marlon et Michael. Leur découverte fut savamment orchestrée en mêlant Dana Ross comme révélatrice de leur talent. Les ventes de disques du groupe sont estimées à 100 millions, ce qui en fait l'un des meilleurs vendeurs de disques au monde. Suscitant une grande attention de la part des médias et du public à leur époque, la formation est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1997 et au Vocal Group Hall of Fame en 1999. Pilier de la Motown, la fratrie quitte la maison de disques de Détroit en signant en 1975 chez CBS Records. Et le plus jeune frère, Randy, entre dans le groupe au départ de Jermaine, qui préfère lui rester au sein de la Motown. Le groupe devient alors The Jacksons. Puis, en 1984, à la suite de leur tournée Victory Tour, Marlon et Michael quittent le groupe. Et on sait combien cette décision fut lucrative pour Michael. La fratrie est le premier groupe à faire ses débuts aux États-Unis en alignant de suite quatre titres qui vont atteindre la première place du Billboard Hot 100. I Want You Back, ABC, The Love You Save et I'll Be There. Seul single issu du premier album du groupe, I Want You Back, atteint la première place en janvier 1970. C'est I Want You Back le plus grand succès du groupe aux États-Unis. Pour autant, je n'oublie pas le rôle tyrannique de leur père, Joseph, et de sa totale emprise sur la vie de ses enfants. Mais il nous reste la musique qui reste brillante et adulée. Voici I Want You Back, Je veux que tu reviennes. C'était I Want You Back par les Jackson 5 sur OxyWeb Radio. Venons-en à cette particularité que fut Rare Earth, qui est un groupe de rock américain produit sous le label éponyme par la Motown, qui connut un pic de popularité dans les années 70. Leurs plus grands succès furent par exemple les chansons « Get Ready » et « I Just Want to Celebrate ». Formé en 1967, le groupe est composé uniquement de blancs, ce qui était alors une exception, pour Motown notamment, qui les engagea fin 1968 jusqu'en 1978. Ce n'est sans doute pas le premier groupe bleu blanc produit par le label, mais néanmoins le premier à rencontrer le succès. Ils connurent le succès, en fait, grâce à l'album Get Ready, qui va paraître en 1969, surtout pour la chanson du même nom, qui est en fait un faux live de près de 22 minutes, comprenant un solo de chaque instrument que l'on peut entendre. Je dis faux live car la chanson fut enregistrée en studio dans les conditions du live, mais pas en public. Le groupe s'est formé en 1960 sous le nom de The Sunliners et a changé son nom pour Rare Earth en 1968. Le personnel principal du groupe était Jill Bridge, saxophone, flûte, chant, Peter Urelbeck, alias Peter Rivera au chant et à la batterie, John Parrish, alias John Perch, à la basse, au trombone et au chant, Rod Richards, né Rod Cox, à la guitare et au chant, et Kenny James, né Ken Folchick, au clavier. Le style du groupe était alors un rock dit dur. Fin 1969, Edward, dit Eddie Guzman, qui jouait des congas et des instruments de percussion, s'est joint au groupe. Il choisit I Just Want to Celebrate, je veux juste célébrer, tiré de leur excellent album, moins connu que son prédécesseur, One World, et qui est paru en 1970. Tout le monde connaît Get Ready, et aussi sa longueur de 21 minutes, certes passionnante, mais difficile à passer, ou sa version courte, moins de 3 minutes, très frustrante au fond. Alors voici un titre intéressant. We'll be right back. C'était I Just Want to Celebrate par Rare Earth sur OxyWeb Radio. En 1971, Motown déménage à Los Angeles et des artistes importants tels que Stevie Wonder ou Marvin Gaye deviennent artistiquement indépendants, bien que toujours distribués par Motown. En effet, les contrats proposés par Berry Gordy prévoyaient des redevances extrêmement basses et la Motown imposait des contraintes strictes d'exclusivité. Ainsi, les noms de The Supremes et Jackson 5 sont restés propriétés de la Motown après le départ des artistes qui durent alors se trouver un nouveau nom de groupe. A noter que de 1959 à 1972, le groupe de musiciens de studio, The Funk Brothers, enregistra la majeure partie des disques de la firme et participa à façonner le son Motown. Une musique soul, matinée de pop, un chant et des claquements de mains directement inspirés du gospel. En 2003, le documentaire Standing in the Shadow of Motown, en français La véritable histoire de la Motown, rend hommage à ces artisans de l'ombre et je vous conseille vraiment de le regarder. En 1983, la Motown convainc de nombreux artistes partis de revenir pour le concert-événement des 25 ans du label. Michael Jackson y montrera par exemple pour la première fois son fameux Moonwalk. Après l'émission, plusieurs artistes retravailleront avec Berry Gordy. Comme quoi l'homme était persuasif et habile. Comme on a du temps, pour finir, je vous propose d'écouter l'avenir du label pour les années 70 avec les Commodores, dont le chanteur Lionel Richie fera par la suite une immense carrière. Le titre proposé ici est Easy, facile, immense tube de 1977. La semaine prochaine, changement d'enregistre avec les Stooges, mais d'ici là, roulez blues!
Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.